Madame, la directrice générale de l'Office des Nations Unies à Genève, Madame la présidente du Comité international de la Croix-Rouge, Madame la conseillère d'État de la République des cantons de Genève, chère amie, Madame Marie Barbèche-Sapuis, conseillère administrative de la ville de Genève, Mesdames et Messieurs, nous sommes très heureux de vous accueillir en ouvrant cette cérémonie dédiée au lancement d'un livre, Gustave Adore, discours politique et humanitaire. Et au nom de la Fondation Gustave Adore, nous vous souhaitons la bienvenue en remerciant la ville de Genève de son hospitalité dans ce magnifique palais. Il ne faut pas que je me trompe, maintenant c'est Anna et Jean-Gabriel Hénard. Donc, la cérémonie va se dérouler en deux temps. Un premier temps du protocolaire avec les autorités qui nous font l'honneur de venir pour manifester leur intérêt pour l'histoire, pour l'image de Gustave Adore et pour le rôle de Genève comme centre et creuset de l'humanitaire mondial. La seconde partie, les historiennes, sera dédiée elle-même au livre et à la lecture d'un certain nombre d'extraits dits par un orateur professionnel. Et immédiatement, je donne la parole à Madame Antoinette Sellière et Monsieur Frédéric Hamsler, tous deux descendants directs de Gustave Adore et en même temps membres de la Fondation Gustave Adore.
Mesdames et messieurs, chers amis, il eût été impardonnable que la personne, l'œuvre, l'action de Gustave Adore s'efface avec le temps. Pas seulement pour sa famille, mais bien pour Genève, qui a eu le privilège de compter dans ses rangs cet homme d'exception et de servir de cadre à sa vie et à ses remarquables initiatives. Si la ville de Genève a eu le mérite de baptiser son nom un des plus beaux quais du bord du lac, nos concitoyens ne sont sans doute pas assez conscients de son apport à l'histoire de notre ville, de notre canton et de notre pays. Il fallait donc qu'une institution se consacre à entretenir sa prestigieuse mémoire et à rappeler ce qu'il a fait, ce qu'il a dit, en quoi il est un exemple pour tous, pour tous ceux qui s'engagent dans l'action politique, administrative ou humanitaire. C'est le rôle de la Fondation Gustave Adore qui vous accueille aujourd'hui. Elle a été créée en 1995 à l'occasion de la commémoration du 150e anniversaire de la naissance de Gustave Adore et depuis presque 30 ans n'a cessé d'œuvrer à maintenir vivant son souvenir. Cet anniversaire avait donné lieu à une cousinade où quelques 400 descendants de notre aïeul s'étaient retrouvés pour un déjeuner dans la campagne genevoise autour d'une photo grandeur nature de notre illustre grand-père. Cette commémoration fut suivie d'un premier colloque historique qui a réuni de nombreuses personnalités en 1996. 15 ans après, en 2013, nous sommes retrouvés 600 au CICR pour une réunion au cours de laquelle Yves Ultramar et François Bugnon nous ont parlé de notre grand homme. On ne remerciera jamais assez ceux qui ont fondé et animé notre fondation. Roger Durand, son président dont le rôle est fondamental pour faire revivre l'éblouissante carrière de Gustave Adore. Et aussi les fondateurs qui étaient à l'époque Robert Adore, Claude et Daniel Barbet, Pierre Turetini, Valérie Burgi, Costa et Nathalie Van Berchem, Toby Barbet, Corinne de Charner, Jean-Daniel Cando, François Bugnon, Yves Ultramar et moi-même à la fondation. À la création de cette fondation, plusieurs membres de notre famille disaient encore grand-papa. Mais nos oncles n'étant plus de ce monde, ils ont été remplacés par leurs descendants. Olivier Duprat, Véronique Rochette, Olivier Turetini, Frédéric Hansler et Zoé Barbet, qui sont venus nous apporter leur talent de photographe, de trésorier ou d'historien. Permettez-moi de m'adresser aux membres de notre famille pour vous dire combien je sens la jeune génération curieuse de notre passé familial et le plaisir que j'ai à l'évoquer avec nos petits-enfants. Il me semble que nous tous, nous pouvons faire beaucoup pour transmettre à ceux qui nous suivent la mémoire de Gustave Allure. Avant de conclure cette brève présentation, je me dois de citer notre comité scientifique, sans lesquels rien n'aurait été possible. Entourant notre infatigable président Roger Durand, je veux rendre un hommage senti à Françoise Dubosson, à Valérie Lathion, François Bugnon, Cédric Cotter et Sarah Scholl. Ils œuvrent sans relâche au sein de cette belle fondation et je les en remercie du fond du cœur. C'est Frédéric Hansler, éminent historien, l'arrière-arrière-petit-fils de Gustave Adolphe, qui va vous donner maintenant l'aperçu des réalisations de notre fondation. Je vous remercie.
Mesdames et messieurs, c'est un plaisir de vous présenter brièvement les activités de la Fondation Gustave Adolphe. Le conseil de fondation étant présidé par Roger Durand, au dynamisme et à la créativité légendaire, vous ne serez peut-être pas complètement surpris d'apprendre que la Fondation Adolphe a orné la République de quelques plaques commémoratives. Une première au 14 rue de l'Hôtel de Ville, maison natale de Gustave Adolphe. Une seconde sur la place principale de Coligny, où il a été maire. Une troisième enfin au 6 rue de l'Athénée, où il habitait. Si vous me permettez d'aller crescendo, il convient de mentionner maintenant les bustes de Gustave Adolphe. Le premier à la mairie de Coligny, le second à Berne, au Palais fédéral, qui, à l'époque où il fut placé, était le premier à ne pas être celui d'un militaire, comme l'a glissé malicieusement Roger Durand. Le troisième enfin, que tout le monde connaît, j'ose espérer, au jardin anglais, au bout du quai, qui porte son nom. Mais rassurez-vous, la Fondation Gustave Adolphe n'a pas pour vocation d'occuper l'espace public. Elle se propose notamment, selon ses statuts, d'approfondir la connaissance historique de sa vie et de veiller à la reconnaissance de son œuvre. Et c'est bien dans cette dialectique entre connaissance et reconnaissance familiale et publique que se situe l'action de la Fondation. C'est pourquoi le Conseil a compté des historiens et des historiennes professionnelles en son sein dès sa création et que s'est constitué en 2019 le Cercle des historiens couvrant les domaines de l'histoire politique, humanitaire, religieuse, économique. Au registre de la connaissance historique, il convient de signaler la recherche inlassable de documents dans les archives familiales et leur archivage. De cet effort procède, par exemple, l'édition monumentale en 2009 des 500 lettres de Gustave Adolphe à sa fille Germaine et à son gendre Frédéric Barbet, ainsi que le volume Gustave Adolphe, discours politique et humanitaire que nous inaugurons aujourd'hui. À signaler également, toujours à l'initiative de Roger Durand, deux colloques scientifiques qui illustrent la perspective non seulement historique mais aussi critique de la Fondation. Le colloque de 1995 qui a déjà été mentionné, j'ajouterai le colloque de 2017 dont les actes ont été publiés sous le titre qui dit bien son nom, Action humanitaire et quête de la paix, le prix Nobel de la paix décerné au CICR pendant la Grande Guerre. Mais derrière la Fondation Adolphe, il y a aussi une famille, et votre présence en témoigne largement. Les cousinades ont été évoquées, et le vernissage qui nous réunit ce soir, malgré la nombreuse assistance, n'est qu'un échantillon de ce qu'est une cousinade. Mais il nous permet d'allier reconnaissance et connaissance familiale et publique. Je vous remercie de votre attention.
J'ai maintenant l'honneur de donner la parole à Madame Tatiana Binavoya, qui est donc la directrice générale de l'Office des Nations Unies à Genève. Elle a bien voulu venir malgré une collision d'agenda, puisqu'à 19h30, elle doit procéder à une autre cérémonie. Et c'est pour cette raison-là que, un, nous lui sommes très reconnaissants d'être venus, et qu'elle prend maintenant la parole, quitte à bouleverser un peu le protocole habituel. Vous avez le micro.
Bonsoir, Excellences, Mesdames et Messieurs. En tant que directrice générale de l'Office des Nations Unies à Genève, je suis vraiment très honorée d'être présente parmi vous ce soir pour le lancement de la Wallon Escapador, discours politique et humanitaire. Un merveilleux hommage à un homme malheureusement trop peu connu, malgré ses immenses influences encore perceptibles aujourd'hui. En effet, Gustave Adolf a laissé un héritage exceptionnel tant que bâtisseur de la paix. Mais c'est de son rôle dans la création de la Société des Nations dont je voudrais vous parler aujourd'hui. Après la Première Guerre mondiale, l'Europe était en ruine. Et il était impératif de prévenir une nouvelle catastrophe. Sous l'impulsion du président américain Woodrow Wilson, la Société des Nations a vu le jour en février 1919. Elle était dédiée à la paix et à la résolution pacifique des conflits. Mais pourquoi Genève a-t-elle été choisie comme le siège de cette organisation internationale? La réponse réside en grande partie dans les efforts conjoints de Gustave Adolf et de l'économiste William Rapaport. Grâce à leur persévérance, Genève a été préférée à Bruxelles ou à Adair. En mai 1920, la Suisse a rejoint cette nouvelle organisation internationale, marquant ainsi le véritable début de la Genève internationale. C'est d'ailleurs grâce à Gustave Adolf que l'adhésion de la Suisse à la Société des Nations a pu se réaliser, celle-ci étant conditionnée à la reconnaissance de la politique traditionnelle de notre État suisse. Le palais Nelson, situé au bord du lac Léman, est devenu le siège de la Société des Nations. Cette institution a marqué un tournant historique majeur, car elle a été la première à fixer les cadres de relations internationales. Mais l'ampleur de l'impact de Gustave Adolf sur les affaires internationales ne s'arrête pas là. En effet, en tant que président de la Croix-Rouge, il a introduit de nombreuses initiatives dont l'influence sur le droit international est encore perceptible de nos jours. Le meilleur exemple est, sans aucun doute, la signature en 1925 du protocole de Genève visant à interdire l'utilisation du gaz toxique et d'armes bactériologiques dans les conflits armés. Il s'agit d'une importante étape dans l'évolution du droit international humanitaire qui a ouvert le chemin à la mise en œuvre d'importantes conventions telles que les conventions sur l'interdiction des armes chimiques. Nous pouvons donc constater que Gustave Adolf a joué un rôle clé dans l'évolution du droit international, du multilatéralisme et de la politique internationale dans son ensemble. Son héritage est aujourd'hui plus vivant que jamais. Et le Palais des Nations étant désormais occupé par l'Organisation des Nations Unies. La Société des Nations, puis l'ONU, ont été fondées sur la recherche de la paix. Comme l'a dit le secrétaire général de l'ONU la semaine passée, en annonçant ses priorités pour 2024, la paix est notre raison d'être. C'est la même vision que celle pour laquelle Gustave Adolf s'est battu tout au long de sa vie. Pourtant, on le regarde le paysage géopolitique mondial d'aujourd'hui, la chose qui manque le plus, c'est justement la paix. Permettez-moi de conclure sur cet appel à la paix, la démocratie et les droits de l'homme qui traduisent les visions qu'avait Escafador des affaires internationales il y a plus d'un centenaire. Face aux défis mondiaux, que soit en 2019 ou en 2024, le multilatéralisme et la paix sont et doivent être la seule voie à suivre. Je suis absolument sûre que Gustave Pardo serait d'accord. Merci pour votre attention.
Je donne donc maintenant la parole à Madame Mirjana Spoljar-Eger, présidente du Comité international de la Croix.
Mesdames, Messieurs, chers amis, je souhaiterais commencer par la lecture d'un témoignage qui m'a marqué. Les premières lettres sont arrivées comme des oiseaux de tempête. Mais tôt après, ce fut la tempête elle-même, un flot, une mer. Brusquement, on reçut 1000 lettres en une journée, puis 3000, 5000, 10000, et en fin décembre, 30000, qui faisaient affluer chaque jour toute l'angoisse de l'Europe. En un afflux invisible, les craintes, les soucis, les appels désespérés, les cris de terreur de millions de peuples viennent déferler ici chaque jour. En un refus invisible s'écoule ici journellement vers les millions, l'espérance, la consolation, le conseil et l'information. Là-dehors, d'un bout à l'autre de notre monde, le cœur crucifié de l'Europe saigne de blessures innombrables. Et ici, son cœur bat encore. Car ici, à la souffrance vraiment inhumaine de notre époque, répond un autre sentiment éternel, la pitié humaine. Stefan Zweig a écrit ces mots à la suite de sa visite de l'Agence internationale des prisonniers de guerre en décembre 1917. Ma première visite en tant que présidente du CICR a été au bureau de l'Agence centrale de recherche pour le conflit armé international entre la Russie et l'Ukraine. J'ai longuement échangé avec mon collègue en contact direct avec les familles recherchant leurs proches combattants ou civils. Les mots écrits en 1917 résonnent, car les similarités sont frappantes. L'inquiétude d'une famille pour un parent disparu n'a pas changé. Le travail du CICR garde la même essence aujourd'hui. Nos collègues écoutent, recherchent, informent et rétablissent individualité et humanité dans une masse de souffrances anonymes. La Première Guerre mondiale et la présidence de Gustave Adolf ont transformé le CICR. Il devient, sous lui, opérationnel et international. L'Agence internationale des prisonniers de guerre, créée en août 1914 par Gustave Pardor, marque profondément le mandat opérationnel du CICR. Ses activités s'étendent à tous les prisonniers de guerre, mais aussi, pour la première fois, aux civils. Gustave Pardor négocie avec les parties belligérantes les premières visites de fonds de prisonniers auxquelles il participe lui-même dès la fin de 1914. Il sera le premier, mais pas le dernier, président du CICR sur le théâtre des opérations. Le modèle des visites développées durant la Première Guerre mondiale et notamment l'importance des entretiens sans témoins se retrouve dans les modalités que nous négocions toujours aujourd'hui avec les parties en conflit, inclus entre la Russie et l'Ukraine. Alors que le droit international humanitaire en vigueur à l'époque n'offre qu'une protection aux militaires blessés, le CICR et son président sont pragmatiques pour étendre ce mandat durant la guerre et amorcer la révision des conventions de Genève. Ils sont également conscients des avancées technologiques et interrogeant l'utilisation des nouvelles armes chimiques. Encore aujourd'hui, le CICR analyse et questionne les nouvelles méthodes pour faire la guerre. La digitalisation des conflits armés et leurs conséquences pour la population civile sont au cœur de notre dialogue avec les États et de plus en plus le secteur privé. Le travail de mémoire et de recherche, tel que celui de M. Durand, et la fondation de Gustave Ador, ainsi que le soutien constant des autorités, notamment celui du canton et de la ville de Genève, sont essentiels à notre action. Je tiens à souligner votre engagement et à vous remercier aujourd'hui, surtout après une année particulièrement difficile. Mesdames et messieurs, le CICR, à travers ses 160 ans d'histoire, témoin et acteur dans la guerre. Alors que nous nous sommes dotés d'une nouvelle stratégie institutionnelle, le passé nous offre des clés de lecture toujours pertinentes pour répondre aux défis d'aujourd'hui. Refléter sur l'histoire du CICR et l'héritage de ses figures fondatrices nous permet d'établir la continuité de notre identité, notre refus obstiné à céder à l'indifférence face à la permanence de la guerre et notre engagement constant à répondre à ses conséquences. Chaque jour, nous devons continuer de mobiliser ce passé et protéger les gains durant acquis. Nous avons en notre possession un héritage universel et précieux, les conventions de Genève. Les conventions de Genève sont le fruit de l'engagement d'hommes et de femmes pour le CICR, parfois même de toute une vie, comme ce fut le cas de Gustave Ador et de ses 58 années au service de l'institution. Les conventions de Genève ne sont pas un objet de musée. Elles protègent les civils et les combattants au cœur des conflits armés. Elles préservent notre humanité commune. Elles doivent être respectées. Cette année, alors que nous célébrons leur 57e anniversaire, nous avons tous un rôle à jouer au sein de nos sphères d'influence respectives pour en accroître leur connaissance et leur respect. Plaider pour le respect du droit international humanitaire est la responsabilité première qui m'incombe en tant que présidente du CICR. Je reste déterminée à saisir chaque opportunité pour exhorter tous les chefs d'État à ce qu'ils fassent de la mise en œuvre des conventions de Genève, qui sont universellement ratifiées, leur priorité politique. Merci beaucoup.
Je donne maintenant la parole à Madame Marie Barbet-Chapuis, conseillère administrative de la ville de Genève. Merci.
Mesdames et messieurs, chers invités, si vous me permettez de déroger exceptionnellement au protocole, chère famille, il y a dans un mandat d'élu des obligations protocolaires qui portent bien leur nombre d'obligations, et puis il y a des moments plus rares et émouvants, et c'est le cas de celui de ce soir en ce qui me concerne. C'est aujourd'hui un peu à double titre que j'ai le plaisir de vous accueillir ici au Palais des Arts, au nom des autorités de la ville de Genève, bien sûr, des autorités conscientes que Genève ne détiendrait pas le titre envié de plus petite des grandes villes sans l'apport de personnalités visionnaires comme Gustave Ador. Lui qui fut le grand artisan de l'implantation de la Société des Nations à Genève et l'une des figures marquantes du Comité international de la Croix-Rouge. Et je crois que le Palais des Arts où nous nous trouvons ce soir est le lieu idéal pour ce vernissage, puisque la construction de ce palais avait été confiée en 1818 à l'ingénieur cantonal Guillaume-Henri Dufour, futur général de l'armée suisse et cofondateur de la Croix-Rouge. Rouge International. Et il se trouve aussi que le PADNR sera en 1914, pendant quelques mois, le siège de l'Agence internationale des prisonniers de guerre, un service, comme l'a rappelé la présidente du CICR, fondé à l'initiative justement de Gustave Adolphe. Mais ce soir, c'est aussi avec un titre un peu moins officiel et protocolaire que j'ai le plaisir de vous accueillir, celui de pièce rapportée de la famille Bardet. Alors que je me souviens de cette réunion de famille en 2019, je crois, au cours de laquelle je suis tombée par hasard et avec émerveillement sur ce volume de discours manuscrits et dactylographiés de Gustave Adolphe que sa fille et son beau-fils Germaine Adolphe et Frédéric Bardet avaient fait relier. Des discours qui figurent dans l'ouvrage publié aujourd'hui et un document que j'ai désormais le privilège d'avoir dans mon bureau de la rue de l'Hôtel de Ville, cette même rue dans laquelle Gustave Adolphe est né en 1845. La vie réserve parfois de jolis clins d'œil. Mais pour la modeste magistrate communale que je suis, rendre hommage à Gustave Adolphe, l'une des plus grandes figures politiques suisses du début du XXe siècle, cela donne un peu le vertige. Rares sont les politiciens suisses d'envergure internationale et le très libéral Gustave Adolphe aura été l'un d'eux parce qu'il a donné un relief marquant à la politique étrangère de la Suisse durant une époque cruciale, parce qu'il a transformé radicalement le CICR pour lui donner une dimension mondiale et parce qu'il a réaffirmé aussi la neutralité suisse pendant la guerre, non pas par lâcheté mais toujours par souci humanitaire. Et pour cela et pour beaucoup d'autres actions qu'il serait trop long d'énumérer ici, Gustave Adolphe n'aura pas seulement marqué son époque, il a contribué aussi à faire de Genève ce qu'elle est aujourd'hui, une ville ouverte, une ville de paix, carrefour du multilatéralisme et siège de nombreuses organisations internationales. Dans son discours intitulé « Par amour pour mon pays », prononcé en 1907, Gustave Adolphe interpellait le Grand Conseil par ces mots, je cite le passage, autant les souvenirs du passé sont respectables, et autant je serai le dernier à tourner le dos à tout ce qui fait la gloire de Genève dans le passé, autant je crois que nous ne pouvons pas vivre uniquement de souvenirs, et que nous devons nous placer en face des circonstances de l'heure actuelle, et ouvrir les yeux pour voir les différences qui existent entre la Genève du XXe siècle et la Genève du XVIe et XVIIe siècle. Ces mots nous disent à quel point Gustave Adolphe savait être respectueux du passé, tout en étant tourné vers l'avenir, son action a toujours été celle d'un homme d'État fermement engagé pour donner à Genève et à la Suisse les clés leur permettant d'affronter les défis de l'époque. Et dans la conclusion de l'un de ses discours, Gustave Adolphe avait comparé le CICR à un arbre immense à la frondaison magnifique. Alors cet arbre que l'on peut aujourd'hui comparer à la Genève internationale et qui nous a été légué par des personnalités comme Gustave Adolphe, cet arbre doit plus que jamais être entretenu, soigné, développé. Et en ces temps troubles au niveau géopolitique, où le multilatéralisme est mis à rude épreuve, dans une époque où les canons de la guerre résonnent à quelques milliers de kilomètres d'ici, il nous incombe à nous toutes et tous de faire perdurer l'héritage de Gustave Adolphe. Et j'ai perdu la fin de mon discours, ce n'est pas grave, je me suis emmêlée dans mes fiches. Mais je disais, et c'est le lieu d'affirmer ici la détermination des autorités de la ville de Genève à travailler aux côtés des autorités cantonales, à perpétuer l'esprit de Genève, à soutenir la vocation internationale de Genève et à renforcer notre ville comme laboratoire innovant du multilatéralisme. Permettez-moi de conclure cette allocution avec quelques remerciements à l'adresse de la Fondation Gustave Adolphe, des remerciements que j'adresse notamment à Roger Durand, avec qui j'ai eu l'occasion d'échanger au sujet de l'héritage de Gustave Adolphe et de ce fameux document retrouvé dans la maison familiale. Je vous remercie de votre attention.
Et maintenant, j'ai le plaisir de donner la parole à Madame Nathalie Fontanet, conseillère d'État de la République et tout le monde de Genève, Nathalie, s'il vous plaît.
Mesdames et messieurs, chères familles de feu Gustave Adolphe, je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui à l'occasion du lancement du livre de discours de Gustave Adolphe et je remercie la Fondation Gustave Adore pour son invitation et l'honneur qui m'est accordé de m'exprimer au nom du Conseil d'État en hommage à une personnalité qui a marqué à la fois l'histoire de Genève, mais aussi l'histoire de la Suisse et l'histoire du monde. Le patronyme de Gustave Adore est connu des Genevoises et des Genevois, au moins autant que des touristes de passage, car c'est ainsi qu'a été baptisée l'une de nos plus belles promenades du bord du lac, située entre le jardin anglais et le quai de Coligny, la commune de naissance de Gustave Adore. Mais au-delà de cette portion de la rive gauche, avec ses 160 platanes et ses pelouses agrémentées de fleurs à bulbes, que devons-nous exactement à l'homme politique qui a porté ce nom? Gustave Adore a consacré près de 60 ans de son existence à servir l'État et son prochain. C'était un homme d'action, réservé sur le papier, mais très audacieux dans sa mise en œuvre. Il s'est concrètement et de tout son vivant battu pour une coopération internationale fondée sur le dialogue, la solidarité et le respect mutuel afin de résoudre, notamment sur le plan du financement, les problèmes qui menaçaient la stabilité et la prospérité de nos sociétés. À cheval entre les 19e et 20e siècles, il a joué un rôle clé à un moment donné de notre histoire. Je pense ici notamment à la consolidation d'un CICR encore jeune et qui traversera avec succès l'épreuve d'une Première Guerre mondiale. Je pense aussi à l'installation de la Société des Nations de Genève à Genève, qui marquera le véritable envol de ce que nous appelons aujourd'hui la Genève internationale. Et cette année en particulier, je pense à sa contribution à la Déclaration de Genève. En effet, il y a 100 ans, la Société des Nations adoptait ce document qui, en reconnaissant pour la première fois les droits spécifiques aux enfants, donnera une impulsion nouvelle au droit international. Gustave Adore a laissé un héritage précieux qui continue à rayonner à travers la Genève internationale que nous connaissons aujourd'hui avec ses 36 000 employés et ses 650 entités œuvrant au quotidien pour un monde plus juste, un monde plus sûr et plus durable. Nous pouvons toutes et tous être profondément reconnaissants du travail accompli par celui qui est aussi, fallait bien que je trouve un lien personnel, qui est aussi mon lointain prédécesseur. Et oui, Gustave Adore a été responsable du département des finances et il était, de surcroît, d'obédience libérale. Mais, comme le démontrent les évolutions de ces dernières années, aucun héritage ne saurait demeurer éternellement. Et il est de notre responsabilité d'en entretenir la flamme. La polarisation des relations internationales et les contraintes budgétaires qui menacent les efforts de coopération menés à Genève ne peuvent nous laisser indifférentes. En temps d'incertitude, il est toujours bienvenu de se souvenir d'où nous venons et donc de qui nous sommes. Nous sommes tous et toutes les héritières de Gustave Adore. Notre devoir moral est de poursuivre son œuvre, de défendre ses valeurs, de perpétuer sa vision. Son courage et sa détermination ne peuvent aujourd'hui que nous inspirer face aux nombreux défis qui nous entourent et qui exigent plus que jamais une action concertée et solidaire de la communauté internationale. Les conflits, les inégalités, les violences et le non-respect de la dignité humaine appellent à un renforcement du multilatéralisme et du droit. Nous résigner, nous replier ou nous diviser face à de tels enjeux serait pure folie. Le lancement du livre pour lequel nous sommes aujourd'hui réunis exprime l'engagement de Gustave Adore et toute l'influence qu'il a eue sur nos destins. Son contenu perpétue la lignée humaniste qui promeut une certaine idée de l'attention portée par Genève à la Suisse, au monde et à ses cris. Personnellement, je vois dans cet ouvrage un témoignage du caractère qui nous unit et dont l'écho doit se prolonger jusqu'à en faire résonner la force dans nos consciences. C'est pourquoi je tiens à remercier chaleureusement toutes les personnes qui ont rendu possible cette publication. Ces écrits nous permettent non seulement de redécouvrir la pensée et l'action de Gustave Ador, mais ils nous invitent aussi à nous engager à notre tour pour la Genève internationale, pour la Suisse et pour autrui. Je vous remercie de votre attention.
Nous arrivons maintenant au livre lui-même. Et tout en remerciant les représentantes des autorités pour leur témoignage, je tiens aussi à souligner que je suis aussi ému en tant qu'homme de constater que, pour une fois, nous n'avons eu que des dames comme représentantes du pouvoir. C'est assez impressionnant. Et je vais donner la parole encore à une dame, cette fois-ci Valérie, pour qu'elle nous présente le livre et la suite de cette organisation.
Mesdames et messieurs, chers amis, que de fois les pas de Gustave Ador ont foulé ce parquet. Que de fois la voix de Gustave Ador s'est élevée et a retenti entre ses murs. Je pourrais vous évoquer les réceptions offertes par le CICR aux délégués des sociétés nationales, par l'Union interparlementaire œuvrant pour la paix et l'arbitrage international, durant laquelle se passèrent 300 invités devant un buffet magnifique où le champagne coula à flot au son d'un orchestre réputé. Je pourrais aussi évoquer les banquets offerts par la ville de Genève lors de l'exposition nationale de 1896, durant lesquels Gustave Ador, alors président du Conseil d'État, occupait une place de choix à côté du président du Conseil administratif, son ami de toujours, Théodore Turritini. Ou encore le magnifique déjeuner offert par le Conseil d'État au roi de Siam, assis en face de Gustave Ador. À chacune de ces occasions, Gustave Ador a prononcé un discours, en toast, s'exprimant, je cite un article du journal de Genève, avec beaucoup de distinction et de charme. Aucun d'entre eux ne nous est parvenu, si ce n'est quelques bribes parues dans ce même journal qui se plaît à relever la distinction des invités, des salons si magnifiquement décorés, la soirée des plus brillantes et le souvenir exquis qu'emporteront les participants. Durant sa longue et féconde carrière, Gustave Ador s'est donc de nombreuses fois exprimé en public. Évidemment, pas seulement au Palais Hénard. Ses discours au Grand Conseil, au Conseil National, à l'Assemblée de la Société des Nations, ceux dans le cadre des conférences internationales de la Croix-Rouge ou d'autres conférences internationales, et même à l'Institut de France, ont été publiés, bien entendu, dans leurs actes respectifs. Mais qu'en est-il de tous les autres discours, conférences et toasts? Certains ont été publiés dans le Journal de Genève ou dans d'autres quotidiens. Mais les articles, souvent, les résument, voire les évoquent seulement. Heureusement, un magnifique volume de manuscrits de la plume de Gustave Ador et d'imprimés divers a été conservé par la famille Ador. Madame Barbet nous en a déjà parlé. Ce volume contient entre autres quelques discours, parfois sous forme de brouillons, qui n'avaient jamais été publiés. Ces documents ont été le point de départ de l'aventure qui a conduit à la réalisation de ce livre. J'ai ensuite exploré de nombreuses archives, privées et publiques, pour réunir une cinquantaine de textes qui permettent de parcourir la longue carrière et le parcours foisonnant de Gustave Ador. Puis je les ai présentés et contextualisés. Je remercie le conseil de la Fondation Gustave Ador de m'avoir confié ce mandat. Merci également aux membres du Cercle des historiens de la Fondation. Ce dernier agit comme comité scientifique et comité de relecture. Nous avons pu bénéficier du professionnalisme de la maison d'édition Guillaume, que je remercie, et qui a mené à terme, dans une coédition avec la Fondation Gustave Adore, la publication de cet ouvrage. Enfin, je remercie les différentes institutions publiques, privées et anonymes qui ont soutenu financièrement mes recherches historiques et la publication de cet ouvrage. Ce florilège nous permet de revivre les combats de Gustave Adore, sa réflexion et son action, sa confiance et son espoir, tout en éclairant plus d'un demi-siècle d'histoire de Genève, de la Suisse et des organisations internationales. Ces textes témoignent d'un art oratoire qui fut constamment salué durant toute sa carrière. Il fut un orateur hors pair, qui savait capter l'attention de ses auditeurs, les convaincre, les persuader, les émouvoir. Ainsi, son éloquence fut-elle unanimement saluée, même par ses ennemis politiques. Sa voix, sa présence coururent à son charisme, qui augmenta au fil des années et culmina avec son élection au Conseil fédéral et sa présidence de la Confédération, durant laquelle ses interventions publiques furent acclamées par des foules immenses. Jusqu'à la fin de sa vie, Gustave Adore mit son éloquence au service de la liberté, de l'humanité et de la paix. Je vous remercie.
J'ai essayé d'adapter le verbe.